France Inter.
Avec Lisa de Poitiers, avec Laura Domange,
oui,
avec Maud Dufontaine, Monsieur Oldelage, et nos invités Sarah Stern et Jean-Paul.
Vous vous applaudissez comme ça tout le monde.
On se fait la fête.
Ben, Lila Cadour et Nagui.
Parce que contrairement à vous, nous sommes heureux d'être là.
Avec vous.
Je précise que votre ami Daniel Morin est en vacances et que Tanguy Pastureau est aux toilettes. Comme ça, au moins, tout
oh
est
non.
précis. Il a une gastro.
On a dit qu'on ne le
pas.
Il a une gastro.
Qu'est-ce qu'il a mangé hier?
C'est dégueulasse d'afficher.
Il a mangé Daniel Morin.
Non, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gastro en ce moment.
Oui, mais on peut dire qu'il est dans son lit.
Il est.
Voilà. Il se repose.
Non, il est au choc. Voilà. S'il fait ça dans le lit, c'est dégueulasse.
Il est dans son jus.
Il est dans son jus.
Non,
mais non.
Il y en a
des mecs
qui nous écoutent à cette heure.
Pas on l'embrasse.
Non, le nous allons parler des tuches. Et alors, pardon, apparemment, Sarah, j'ai esquinté, estropié la vanne dans le film quand j'ai dit à Ali Rabi,
oui.
Fuck you very much. Vous m'avez corrigé.
C'est fuck you very much.
Wow.
Ah ouais,
c'est tellement mieux comme ça.
Ouais.
Les tuches donc reviennent cinquième volet et c'est une réussite. Ça sera demain au cinéma. Mais petit tour de table puisque le point de départ des tuches, c'est lorsqu'ils ont gagné 100 millions au loto. C'était ça.
C'est exactement ça le premier départ.
Ouais. Alors tu gagnes 100 millions d'euros. Que fait Lisa Delmoitier?
Alors c'est pas 2025, mais je fais un tour du monde.
Tour du monde,
ouais,
ok.
Ouais, ouais.
Laura Domange 100 millions d'euros.
100 millions
ouais,
d'euros
ouais. 100 millions d'euros.
Franchement, j'achète.
Net d'impôts.
Ah ouais, voilà,
ah ouais, c'est ça,
bien de le préciser.
Ouais.
Alors bah, déjà, peut-être je fais partie du club des riches, donc je peux rencontrer Elon Musk et lui dire qu'il se calme.
Mais non, à 100 millions, t'es un pauvre.
Ah, pour Elon Musk.
Ah bah non, t'as rien.
Je rachète plein de théâtres et je fais jouer mes potes.
Pas okay, mal,
ouais,
d'accord,
ouais, trop sympa.
Oh là là, 100 millions, c'est un truc de... Déjà, je rejoue pour le plaisir, même si je perds. Je m'en fous, j'ai 100 millions.
Tu fais tapis, tu
ouais.
remets tout sur 5 numéros.
Ouais,
faut avoir du courage. Leïla.
Je me mets bien.
Excusez-moi.
Je me mets bien, quoi. Je sais pas, je m'installe bien. Je voyage un petit peu, mais je travaille.
Bah déjà, t'arrêtes ici, déjà, d'abord.
C'est une bonne question.
Non,
non.
C'est pas dit.
Pas
ouais.
sûr.
Non,
on fait
pas
ça pour l'argent, sachez-le.
Non, c'est,
non, pas sûr.
Non, c'est vrai. Service public.
Ça, je... ouais, déjà.
No comment.
Déjà.
Est-ce qu'on peut pousser à 110 millions ou pas?
Oui, alors, tu sais quoi, j'avais même hésité parce que 100 millions, c'était des tuches, mais le record. L'année dernière, 167 millions.
Alors, si j'ai 176 millions, j'achète un 2 piastres à Paris.
bonne vanne. Réflexe, pareil, le même réflexe, en fait. Et je suis allé voir sur Internet ce que faisaient en général les gagnants comme ça du loto. C'est immobilier,
oui.
voyage,
oui.
Et après, une passion.
ONG, moi, zéro.
Que... Pardon
zéro aux ONG.
Ils ne le disent pas, mais je pense
exactement,
donne, ouais.
c'est ce que j'allais dire.
Ils donnent.
Mais non.
Enfin, rarement des personnes disent j'ai gagné 100 millions et je donne à la lutte contre le cancer.
Parce qu'on dit peut-être pas qu'on donne, c'est peut-être plus élégant de ne pas le dire.
Mais souvent, ils n'arrêtent pas leur travail non plus.
Ouais.
C'est vrai. Sarah, si vous gagnez 166 millions d'euros.
Bah évidemment, je reverse tout à des associations.
Bien sûr.
Non, dis ta vérité.
Bah, je sais pas, je m'entoure d'une escadrille d'escorte et je pars au Bahamas.
Mais non,
voilà.
C'est vrai,
c'est énorme.
Okay. J'adore l'idée.
Ouais, par exemple.
C'est une télé-réalité ce que vous racontez. Et Jean-Paul
Non, mais bah, c'est tellement démesuré comme somme.
Surtout
mais
quand ça arrive d'un coup.
Ouais, d'un
c'est
coup
pas, le, résul... c'est pas ouais. le résultat de plein de choses.
Surtout si on en a pas besoin.
T'en as pas. Oui, et puis tu sais très bien que tu dépenseras jamais ça dans ta vie.
Non,
donc peut-être
attendez.
Tu fais comme. Je pense que, mais sans être. Faire une fondation comme a fait Bill Gates, comme a fait tout ça, ça doit être fou ça.
Mais Bill
ça
Gates génial, est allé plus loin parce que je crois
ouais.
qu'il a pas déshérité ses enfants, c'est pas exactement
non,
ça.
Non,
mais
il leur a dit.
Moi, je veux bien l'héritage de ses enfants.
Non, mais t'as raison, c'est énorme. Mais il a dit, je crois que c'est 5% pour mes enfants et tout le reste
ouais.
Il aurait fait l'inverse. On aurait dit, c'est déjà très généreux de donner 5%, mais il a fait l'inverse.
Ouais. Ouais. Mais il a dit quand même les 5% en effet, mais ce sera considérable pour ses enfants.
Les tuches reviennent et ça. C'est la bonne nouvelle. Ils sont partis pour l'Angleterre. Et avec... Je sais pas comment décrire le film parce que Tout est dingue dans le film, du début, des packshots, des boards qui arrivent au début simplement.
Avant le film.
C'est jingle, oui, ouais. C'est jingle où on voit TF1 Productions et c'est une main qui porte comme ça, comme des poussières d'or. Et il y a la voix de Jeff Tuve qui dit.
Ouais. Non, mais je commande tout. En fait.
Bah, il dit quoi à ce moment-là?
Il dit attention, là, je sais plus ce que je dis.
La poussière.
La poussière, fermez les yeux.
Voilà.
Non, mais c'est parce que tu sais, quand tu montes ton film, à un moment, tu es au montage de ton film, puis à un moment, on t'apporte tout ça, tous les logos, TF1, Pathé, enfin tout ce que vous connaissez.
Des trucs qu'on ne connaît pas.
Et des choses qu'on ne connaît pas.
Il y en a souvent beaucoup. Dolby Surround,
voilà,
et tout ça.
Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus longs. Parce qu'ils font tous des petits films animés, donc tu te trouves souvent avec 2 minutes, 2 minutes 30. De... Ouais. Et quand on va au cinéma, c'est un peu ennuyeux.
Vous exagérez, ça ne dure pas 2 minutes 30.
Ah non, plus, ça dure bien 2, quoi.
Non, mais vous en faites un moment drôle.
Voilà, donc j'ai dit, je vais les commenter, comme ça au moins ce sera drôle.
Parce que, et on retrouve peut-être la mentalité, j'ai envie de dire des Monty Python aussi, oui, dans cette histoire, c'est-à-dire de se servir de tout ce qui est dans les codes du cinéma, le générique de début ou le générique de fin, pour en rire, en le détourner. Clin d'œil peut-être aussi, j'ai envie de dire, à Gottlieb, il se passe toujours,
oui,
un truc dans le...
Les Robin des Bois, Gottlieb, voilà. Enfin, toutes mes références, quoi.
Ouais. Dans un plan quelque part, et puis ça commence par resituer un tout petit peu le portrait de chaque membre de la famille. On commence par un flashback dans les années... 78-19,
ouais,
la rencontre entre les deux, la banane, la déclaration d'amour, j'ai envie d'être une princesse,
ouais,
et ce sont deux enfants qui abousolent déjà, voilà. Et puis après il y a le patate store, et Stéphanie, store, et bah Stéphanie, oui. Tuche,
ouais.
Ouais. C'est quoi, développe les goodies.
Ah ouais, il y a tout un merch autour des autour des tuches, donc voilà, il y a de l'huile de friture, mais pour se mettre sur la peau.
Il y a des bougies,
frites bien sûr.
Purée, gratin de pommes de terre. Ouais. Et frites.
Voilà. Et toute une déclinaison.
Oui.
Une bougie au gras de bœuf. Ouais. Je ne veux pas trop dévoiler
des tenues.
Des t-shirts, ouais, en fibre de patate.
Ouais, ouais.
Voilà.
Et ce slogan du gras is beautiful.
Bref. Bien dans mon corps. Bien dans mon corps.
Ah oui, la voix, formidable. Non, c'est drôle, c'est malin. Il y a eu une trame, une histoire. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, l'un de vos plus gros fans, grand, pardon. Pourquoi
je dis gros. Suis humilié avant de commencer.
Oh, Hold the Love, fan de Sarah et Jean-Paul.
Je suis fan de Jean-Paul Rouve. Je suis fan depuis que j'ai été élevé par une louve. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, vous étiez drôle et tendre et tout. J'ai été tellement déçu quand j'ai su que c'était pas vous. Je suis fan de Sarah Stern. Elle est pas comme Dao, mais elle est comédienne. Sarah Stern, je me suis fait même tatouer vos initiales. Bon, depuis les jaloux disent que c'est un peu spécial. Et vous êtes là pour le film God Save the Tuche. C'est un documentaire sur la famille les Tuches, mais je suis pas sûr que ce soit tourné en terre anglaise. J'ai eu un doute en entendant Bernard Ménez. Bonjour la Tuche. Sarah est fan de la Motown, j'approuve. C'est pour ça qu'elle aime autant jouer avec Jean-Paul Groove. Jean-Paul, lui, est plutôt fan de grandes chansons françaises. Oh. Barbara l'avait prédit, et là c'est balèze.
Ah ouais, oh, oh là là, il change l'instrument.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que les Tuches 4 est sorti. Tu m'as dit 7 fois, c'est le dernier tournage, Télérama à l'appel, le tout dernier naufrage. À l'hiver tu verras, ils seront de retour. L'hiver c'est si joli pour les films d'humour, pour les Oscars peut-être, pas encore ce coup-ci, mais les salles seront pleines dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Est-ce que c'est pas plus classe que tous les films de guerre? Et moi, ça m'a plus plu que tous les films de... Je suis fan de la Tuche, je l'ai dit, mais je suis fan de Rocket aussi. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Hold the Love, dont vous pouvez pouvez voir le clip de son single Saint-Valentin, qui est aussi le titre de son nouvel album.
Exactement. Et
Bravo. C'est hyper beau.
Ouais.
Non mais c'est
réussi parce que
c'est drôle, c'est touchant.
Vous avez été touchant.
C'est touchant. Ouais, non mais vraiment, c'est vraiment touchant, vraiment.
Bah, j'espère parce que je sais que tu aimes aussi Barbara en plus, donc.
Ah, j'adore.
J'aime chanter.
Ouais. Et voilà.
Du coup, enfin,
God Save the Touche. Comment résumer, comment parler d'un film avec tant de folie? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il y a une trame quand même principale qui est que tous les Tuches débarquent en Angleterre. Pourquoi débarquent-ils en Angleterre? Parce que Gigi, le gamin, votre fils, mon enfant, la prunelle de vos yeux,
évidemment,
se retrouve sélectionné pour le club d'Arsenal.
Ouais.
Voilà. C'est un stage au club.
Ouais, et au début, en fait, le patron du ou le bras droit, c'est bizarre, il a deux bras droits. Le bras droit du président d'Arsenal vient visiter l'infrastructure, le club de Bouzol, parce qu'il a 80...
Le stade.
1001 places.
Une place de plus que le Stade de France.
Ouais.
Et une buvette.
Ouais. Et une buvette.
Oh là.
La plus belle d'Europe. En fait, Jeff, c'est le contraire. Il a fait agrandir sa buvette de son stade et il s'est rendu compte que la buvette devenait plus grande que le stade. Donc il a décidé d'agrandir son stade.
Voilà. Vous voyez. Donc c'est le stade de Bouzol.
Voilà. C'est le stade de France de Bouzol.
Le stade de France de Bouzol. avec pas beaucoup de personnes dans le public.
36.
Beaucoup d'écho.
C'est ça. Et pas d'eau à la buvette.
Non. La pompe ne fonctionne pas.
En panne.
Et surtout, mais c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que dès l'instant où ce gamin est invité en Angleterre, évidemment. Cathy Tuche qui en veut à mort de ne pas avoir assisté au couronnement du roi et de la reine parce qu'ils étaient invités et qu'ils auraient pu y aller, en veut à son mari et donc va partir faire un voyage de filles où il y aura quand même
Will.
Et ils vont quand même tous partir pour l'Angleterre et fréquenter la cour anglaise avec tout ce que voilà, il y a une vanne par phrase, donc c'est impossible à raconter. Je pense qu'il y en a même certaines que j'ai ratées. J'ai envie de retourner voir
tant mieux.
Le film. Non, mais c'est vrai parce que c'est très dense.
C'est ce que je voulais. Mais c'était la référence que vous faisiez tout à l'heure à Gottlieb. C'est ça qui me plaît. Ce qui me plaisait chez Gottlieb beaucoup, c'est qu'il y avait des vannes de second plan, voire troisième plan, voire quatrième plan. Et là, je voulais que ce soit truffé de vannes. Et c'est mon côté geek aussi parce que. Moi, j'aimais ça quand j'étais ado, quand j'allais voir Retour vers le futur et tout. Je regardais derrière, il y avait une référence, il y en avait partout. Tu vois ? Ah ça, oui, ça c'est... Ouais.
Le cri.
On n'a pas compris.
J'explique. c'est un cri qui est dans un film, un cri dans un western dans les années 50.
C'est les ingénieurs du son qui font
en fait,
la blague.
Il y a un cri, il y a un personnage qui tombe, qui fait... qui meurt. Bon, bref. Et les ingénieurs du son... pendant 30 ans, on repris ça dans tous les films. Entre ingénieurs du son, donc c'est dans Star Wars, c'est dans Retour vers le futur, c'est dans Indiana Jones, c'est dans plein de films.
Le même son
qu'ils mettent. Et dans Star Wars, il y a un moment, un Starship Trooper qui tombe, qui fixait le cri.
Mais c'est il a un nom d'ailleurs. Il a un nom, c'est le cri de...
De Warren. Ouais. Et je l'ai mis dans le film à un moment. Mais ça, c'est une rêve de geek.
Oui,
ça me fait rire.
Mais c'est-à-dire qu'en vous faisant plaisir, vous nous faites plaisir, ce qui est quand même l'essentiel, mais surtout, cette densité-là, elle est frappante. On en a vu des sagas, et la réussite, c'est que chaque numéro, je veux pas dire chaque numéro est meilleur que le précédent, mais en tout cas réussit à surprendre, parce qu'il y a quand même la pression de l'attente. On voit encore hier, les Tuches ont fait plus de 3,5 millions.
À la télé.
Donc malgré les nombreuses diffusions et rediffusions, ça continue de cartonner.
Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant à l'écriture, il faut travailler beaucoup, quoi. En fait, il faut se méfier de quelque chose. C'est quand vous commencez, quand ça commence à marcher, vous avez plein de gens qui donnent leur avis déjà, donc il faut faire attention. mais c'est vrai. Et souvent, on nous dit mais vous devriez faire ça, ça les gens aiment. Et ça, quand vous commencez comme ça, vous êtes cuit.
Ouais.
Sarah, est-ce que vous vivez cette expérience des Tuches comme une troupe de théâtre, comme une troupe de comédiens, comme il y avait à l'époque la troupe du Splendide, qui se retrouve pour revivre et continuer de vivre une histoire ensemble.
Complètement. C'est inédit dans une carrière d'avoir ces rendez-vous comme ça qui jalonnent.
En tout cas, au cinéma. Voilà, après, il y a les séries télé, ça c'est autre chose, mais
au cinéma, c'est très rare. Et donc, moi, j'ai commencé, je ne sais plus, j'avais 20, 21 ans.
Vous les avez toujours.
Évidemment, je les ai toujours. et on a eu tous. C'est très drôle de se revoir, et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi où on est tellement, on se connaît, se côtoie depuis des années, donc ça va vite de travailler ensemble, de retrouver les personnages.
Et de les faire grandir aussi, ces personnages, de les développer, de les étoffer. Vous avez la sensation que votre personnage a pris de plus en plus de place ?
Ça, je sais pas sur la place, c'est très choral, mais ouais. En tout cas, moi j'ai la sensation en tant qu'actrice que je peux proposer davantage maintenant, parce qu'on les a intégrés totalement, voilà. Donc,
et que vous faites partie finalement sur la photo de, et chacun, on va quand même par politesse les citer, en plus d'Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Pierre Lottin, Théo Fernandez, Philippe Dussault, Bernard Ménez qui joue le rôle de Charles.
Du roi.
Elisa Nicole, parce qu'il fallait bien qu'il y ait la copine des Robins qui prend cher, elle est bien dans ça. Enfin bon, Aristote Laïos
qui joue le Gigi,
le fils.
Peter Hudson, Scarlett Bernard Cabrera, saluons Philippe Méchelin, Julien Hervé et Nessim Chikawi, avec lesquels vous avez co-signé ce scénar. Je voulais dire que sur la photo, justement, quand on voit les touches et quand on voit ce film choral, chacun peut avoir sa posture, son regard, son écoute de la situation, en étant dans son caractère, en faisant, j'imagine, des propositions aussi, peut-être en papillonnant en plus des yeux sur par moment, peut-être en faisant un peu plus le Donald ou le coin-coin pour d'autres, pour Pierre Lottin, qui nous a dit, en revenant dans cette émission, tout le bonheur qu'il avait de retrouver les Tuches comme une évidence, alors qu'il pourrait, comme beaucoup d'autres acteurs aussi, se dire « non, ça va, j'ai beaucoup fait ». Je vais passer à autre chose. C'est une question qui vous a frôlé l'esprit ou pas, Sarah, de dire, je suis pas sûre de...
Non, mais je crois qu'on fait ce métier pour ça. C'est rare de connaître un tel succès populaire et de faire rire et que tous les jours dans la rue, on nous dise merci de nous distraire, de nous amuser. Voilà, c'est quand même un cadeau immense. Et ensuite, c'est des personnages tellement hauts en couleur, tellement excessifs.
Oui, mais avec le risque d'être cantonné à ça aussi, et que d'autres vous disent, bah non, je vais pas vous demander de venir, Sarah, parce que si on vous voit, on va penser aux Tuches.
Tant pis pour eux.
Il y a alors Mamie Suze.
On l'adore, Mamie Suze.
Ne me dites pas que vous avez écrit les dialogues de Mamie Suze, c'est de l'impro.
Non. Ce que je fais, non, je blague pas. Ce que je voulais absolument, donc j'avais écrit les sous-titres, pardon. Et je voulais que quand elle le fait, quand on tournait, déjà qu'elle, je lui disais la phrase en français, quoi. Comme ça, elle a l'intention de elle le joue avec la bonne intention, et que la fin de la phrase soit la même sonorité.
Ok. Par donc elle a la véritable phrase.
Oui, bien sûr. Bah oui.
Et elle en fait ce qu'elle en veut.
Oui, c'est ça, exactement. Okay. Mais je veux que la dernière syllabe ait la même sonorité pour qu'on ait le sens.
Oui.
Donc c'était précis, même.
C'est du papier à musique, ouais, exactement.
Ouais, rentre ici, Jean Moulin, fallait pas lui dire deux fois.
Elle est... Par exemple. Mais c'est blindé de jeux de mots, c'est blindé de situations ubuesques, c'est extrêmement drôle, c'est réussi. Bien joué, en tout cas, on en parle jusqu'à midi et demi. Sarah Stern et Jean-Paul Rouff sont nos invités. Mais Lisa Desmoitiers n'aurait pas fait ça comme ça, Lisa. Vous n'avez pas fait les Tuches comme ça, vous ?
Mais non, les Tuches, c'est une famille qui change de pays, mais qui ne s'adapte pas du tout à la culture locale, alors que moi, je m'adapte. Je viens de Belgique, mais j'ai capté les codes de Paris. Il y a des habitudes que j'ai perdues. Je ne dis plus ni 70, ni 90, ni même bonjour.
Ah ouais.
Je suis devenue parisienne. Et en vrai, je dis ça, mais les Parisiens, ils sont très sympas. La plupart disent bonjour, mais s'il y a bien un truc que j'ai vite compris, c'est que la première chose à faire pour t'intégrer à Paris, c'est de chier sur Paris. Voilà, c'est une expression. Remonte ton pantalon, Mélo, je sais que tu viens aussi du Nord, mais pour t'intégrer, faut pas prendre tout ce que je dis au premier degré. Non, moi je trouve Paris magnifique, la vie culturelle est incroyable, mais si tu dis ça, tu passes pour un touriste. Mais rendez-vous compte de votre chance, les Parisiens. Quand un Parisien est là, ouin, il y a du trafic sur les Champs-Élysées, c'est comme quand ma copine méga bonne est là, mes seins sont tellement gros, ils me font mal au dos. Mais bon, je me doute que c'est pénible, enfin je t'avoue que là, tu pousses vraiment mon empathie dans ces retranchements. Mais bon, ouais, moi je m'adapte à mon environnement, mais les Tuches pas du tout. Ils sont en Angleterre, mais ils restent les Tuches. Après, je les comprends. S'il y a bien une culture à laquelle c'est difficile de s'adapter, c'est la culture anglaise, quoi. Les mecs mettent de la menthe dans leur chocolat. À quel moment tu manges une praline et tu dis je crois que ce sera encore meilleur avec un peu de dentifrice. Je dis ça alors que j'ai moi-même passé du temps à Londres quand j'étais étudiante. J'y suis restée quelques semaines pour apprendre l'anglais et perfectionner mon accent. Là, je sens que j'ai perdu les Français, mais oui, voilà, essayer de choper l'accent, c'est une démarche qu'on entreprend parfois dans d'autres pays. Voilà. Enfin, c'est vous qui avez raison, hein. Je vous ai dit, j'essaye de m'adapter. Donc, si je bosse bien, moi aussi, dans 6 mois, je dirais burn-out.
Ah oui.
On dit burn-out, ok. J'ai adoré mon expérience à Londres et mon activité préférée, c'est parler gastronomie avec un Anglais. Oh. C'est fascinant, quoi. Il te dit, mais attends, Lisa, la bouffe est incroyable en Angleterre, puis il te cite 10 restaurants indiens. Et bien sûr, le fameux tikka masala de Liverpool. Certainement, oui. Mais j'ai adoré Londres, les Anglais sont hyper sympa, la bière est incroyable, les musées sont gratuits. C'est aussi à Londres que j'ai découvert ce qui deviendra une de mes plus grandes passions, sortir en boîte le cul à l'air. Voilà. Wow. Là, pour le coup, c'est pas une expression, mais l'autre, tu peux vraiment enlever ton pantalon. Les Anglaises sont à moitié à poil, quel que soit le moment de l'année. Ouais. C'est fascinant, elles ne ressentent pas le froid. C'est bien simple, avant de rentrer sur le continent, j'ai éventré une Anglaise, Daisy McDonald, rest in peace. Je l'ai remplie d'eau, puis j'ai fait une bouillotte. Voilà, c'est... Pendant mes règles, Daisy et moi, on est cul et chemise. Quoi. Donc voilà, j'adore la culture anglaise, j'adore la culture française, j'adore les tuches en Angleterre. Ah, pardon, j'oublie avant de partir, Paris, c'est de la merde. Ça va, je suis intégrée.
Il y a dans ces tuches, il y a un Anglais que nous avions reçu ici d'ailleurs pour la comédie romantique, Charlie
Hanson. Jane Austen a caché ma vie.
Charlie Hanson, voilà.
Qui jouait dans le film, oui, ouais. Jane Austen, exactement. Et pourquoi ne pas avoir pris un Anglais pour jouer le prince Charles? Ou le roi Charles, en l'occurrence.
J'aurais pu.
Bernard Ménez.
Non, mais je sais pas.
Vous voyez Bernard Ménez, vous dites, il ressemble à Charles?
Oui, en fait. Et moi, non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y a quelque chose physiquement. Et je voulais absolument travailler avec lui. Parce que moi, j'aime bien mélanger les générations de gens qui font de la comédie.
Okay.
Comme j'avais pris Annie Cordy. J'aime bien aller chercher des gens. Et pour moi, Bernard Ménez, c'est les films de Pascal Thomas, c'est Truffaut, c'est tout ça. Et ça m'intéressait beaucoup de travailler avec lui. Voilà, c'est ce choix-là.
Charlie
Hanson,
c'est
ça, je suis d'accord.
J'avais squinté son nom, pardon. C'est Charlie Hanson qui est formidable absolument, qui a ce petit côté Hugh Grant dont il joue d'ailleurs.
Le regard délavé,
ouais. Oui, c'est pour ça, on fait une petite allusion à ça.
Exactement.
Coup de foudre à Nottingham.
Exactement. Il y a beaucoup de références, je l'ai dit. Est-ce que vous y avez mis aussi des clins d'œil perso? Vous n'avez pas spécialement le football, et pourtant il y a un hommage à Zizou, donc pauvre.
Ouais. Ah oui, bah quand même, ça je connais.
Un hôtel.
Oui, un hôtel Zizou, ça m'amuse. Ouais. Mais c'est ce que je connais du foot, je connais rien. Par exemple, à un moment, il y a un match de foot avec des enfants, et donc
tous
les costumes me demandent, alors tu veux qui? Donc on met quel, lui il est avant, centre, il est machin, je sais même pas ce que c'est. Donc j'ai dit, on va tous leur donner le numéro 10, comme ça.
Hommage à Zizou.
Voilà, que du Zizou sur...
Et un peu d'Mbappé aussi,
oui,
qui,
c'est vrai.
Qui est dit. Le problème de l'Angleterre, comme l'a dit Elisa Delmoitier, c'est qu'ils parlent tous anglais. c'est ça le problème.
Et ils sont tous bilingues, en fait.
Ils roulent du mauvais côté aussi.
Oui, c'est vrai.
Un problème.
Ils ont plein de problèmes.
Extrêmement drôle. Pourquoi, avec tous les millions engrangés par les tuches, ils ont toujours cette même voiture?
Bah justement, parce qu'ils ne changent pas. Mmh. En fait, c'est ça ce qui plaît.
C'est sentimentaux.
Non, il y avait un reportage au JT où ils interviewaient des gens pour dire pourquoi vous aimez les tuches. Et la première réponse qui revenait, c'était ben ils ont gagné tant d'argent et pourtant ils restent les mêmes. Mmh. Et je pense que ça joue. Bah moi je sais que...
Enfin, il y a eu un énorme camping-car quand même aux États-Unis.
Oui, ils l'ont loué. Ils l'ont loué. Voilà, c'est ça. Mais sinon, leur vie quotidienne n'a pas changé.
Elle est plus présente en tant que maman, Stéphanie Tuche, dans ce film, Zara.
Forcément, bah oui.
Elle est où? Elle est
c'est le rôle de sa vie.
Elle est où? Ah, vous êtes toujours... Elle est très
dans le personnage.
Ah, oui,
elle est dans le personnage. Dans un instant, elle va nous livrer des patates. Dans une scène de sportive.
Mais c'est pas loin d'être vrai. Non, mais
et du pain uniquement avec des croûtes.
Oui. Pain uniquement, oui, c'est une aberration, ouais,
mais j'adorerais.
Une aberration.
Mais lancez ça, on appellerait ça les biscottes.
C'est ça, on appellerait ça les biscottes. Très bonne idée, putain, à breveter ça.
Ça marchera pas.
Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire parce qu'il y a aussi bien l'auteur, l'acteur et le réalisateur,
oui.
C'est le premier volet que vous réalisez.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont été possibles ou impossibles qui vous ont manqué? J'ai l'impression qu'il y a de tout à tous les niveaux.
Non, vraiment, j'ai une liberté absolue. C'est moi qui me mettais quelquefois des contraintes. Je parle pas de tournage, hein. Je parle de blagues, d'humour, de style d'humour. Et c'est vrai que je rajoutais des choses au tournage qui étaient très absurdes. Qui était très Monty Python, Robin des Bois.
Il est quand même un poil plus absurde que les précédents, on est d'accord?
Ben, il y en a, il y a Ils ont tous une dose d'absurde, toujours, parce que Olivier est friand de ça, était friand de ça aussi.
Olivier Barou, pardon.
Et c'est vrai que j'en ai rajouté. Mais c'est vrai qu'au montage, au début, j'en mettais pas trop. Et puis, je faisais des projos et j'en rajoutais. Je faisais, tiens, est-ce que je rajoute ça ou pas? J'essayais, je voyais que ça se marrait. Personne me disait, non, mais fais attention. Parce qu'en fait, la différence entre un film et un sketch.
Vous faites peur à tout le monde.
Oui, je fais peur, c'est vrai. Mais c'est que si tu fais une sortie de route ou une sortie de film, dans un sketch, c'est pas très grave. Au cinéma, il faut faire attention, parce que sortir d'un film peut être déstabilisant et c'est compliqué après au spectateur de re-rentrer. Mmh. Il peut rester extérieur au film. Donc il faut doser ça. Puis il faut toujours être fidèle aux tuches aussi. Il faut, dans ma tête, en fait, je pensais tout le temps à Alain, à Chabat, quand Alain fait Astérix. Il est fidèle à Goscinny, il est fidèle à Astérix, il ne trahit pas.
Il y a l'esprit.
Ouais. Il y a l'esprit, mais en même temps, c'est Alain. Mmh. Ou quand Christopher Nolan fait Batman, il ne fait pas Dunkerque. Enfin, tu vois, et ça, c'est important.
Il est présent, d'ailleurs,
oui.
Alain Chabat,
puisque oui, vous
le citez aussi.
Ouais, il a eu la gentillesse de me faire une voix. Je lui ai demandé, Alain, tu veux bien me faire ça, tout ça. Donc, ça, il m'en a enregistré.
C'était le clin d'œil à l'interlude aussi, un peu qu'il y a dans Astérix. La voix off.
Ah, il y a ça?
Bah oui, il commente la recette.
Tu vois, j'avais oublié.
Du druide.
Non,
t'as raison.
Il y a une recette de cuisine qui arrive en plein milieu du film.
Oui, c'est vrai. C'est des rêves que j'ai. J'ai grandi avec les nuls, avec tout ça. C'est mon.
Et humour. Dominique Farrugia aussi.
Et Dominique qui me fait aussi une voix. Oui, bah c'était normal de penser à tous mes copains, grâce à qui je suis là aussi. Oui.
Quelle a été la scène la plus plaisante à jouer, Sarah Serme, parce que quand on est dans cette troupe là, et vous êtes de tous les plans tous, c'est ça aussi qui est fort, c'est vraiment choral en permanence. Il y a quelque chose qui vous vient immédiatement à l'esprit?
Moi j'ai adoré toute la scène où on doit se faire un créneau impossible à l'arrivée. Voilà, ça c'était très, très
comment
fun
garer,
à tourner.
Comment garer une voiture? Déjà, comment conduire en Angleterre et comment se garer sans abîmer?
Et avec Voldemort, c'était super. Jacques Nassession que je salue. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ces scènes avec lui.
La scène est très drôle, la rencontre de Voldemort.
Non, mais franchement, tout est drôle. Isabelle Nanty est totalement dingue.
C'est une très grande. Enfin. C'est facile, vous savez, parce que c'est une très grande actrice. Et donc, quand on écrit, moi, je sais que j'écris des dialogues, j'ai sa voix, évidemment, dans la tête. Donc, je sais qu'elle va me faire la rupture là, je sais comment elle va me le faire. Donc, ça, c'est dément, ça.
Qu'est-ce qui se passerait si, l'une des actrices ou des acteurs disent, non, je peux pas, mon planning le permet pas, je le fais pas, comment gérer ça?
C'est pas arrivé, quoi. Donc, ça arrivera peut-être.
Vous anticipez suffisamment, c'est-à-dire que vous dites on tourne dans 2 ans, on bloque déjà les dates.
Non. Non, parce que nous on écrit et donc ça prend du temps. Quand on a fini d'écrire, on commence à dire là on pourrait peut-être tourner à ce moment-là. Donc c'est peut-être aller un an avant, un peu moins. Non, c'est pas arrivé, on croise les doigts, ça arrivera peut-être.
Ok, pourvu que ça dure, non. God Save the Tuche, le 5e numéro, et sortira demain. Et c'est une réussite. Dans quelques instants, on va parler de la musique. Alors, la musique, il y en a quand même pas mal.
Oui.
Mathieu Rapneau pour la musique.
Martin.
D'ailleurs, Martin, c'est le cri tout à l'heure, c'était pas Warren, c'est Willem.
Willem, pardon, j'ai dit Warren. Willem, bien sûr, Willem, le cri de Willem, excusez-moi.
C'est pour ça qu'il y a plusieurs auteurs, c'est pour corriger tout ce que Jean-Paul a écrit dans un premier temps.
Oui, c'est super, il a fait tous les tuches, Martin. Et là, je lui avais dit, ça lui plaisait parce qu'il y avait une influence anglaise, pop anglaise, qui lui plaît beaucoup parce que c'est tout ce qu'on aime, c'est une. Nos rêves Beatles, nos rêves Elton John.
Elton John qui est dans le film.
Ouais. Et donc là, on a...
De toute façon, dès qu'une princesse meurt, il y a Elton John qui vient avec un piano
et
des bougies.
Oui, c'est une rêve à Diana, quoi. Ouais. Et ça nous faisait marrer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend un truc. Goodbye.
Very, 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 very short. Avoir donc sorti demain, vous l'avez compris, on a aimé, on a ri, on a même envie d'y retourner. On va parler donc de musique dans quelques instants. Et tout à l'heure, nous parlerons de la culture, la civilisation britannique avec Thibaut Arroy qui est notre invité.
Mais d'abord, super.
Voici Laura Domon.
Oh oui, bravo. Je suis heureuse de vous retrouver. Il est canon, mon
suite.
Ah, j'adore.
Merci. Il a une histoire. Je vais vous la raconter. Il y a quelques semaines, je pars en tournée comme tous les week-ends avec mon régisseur. Je suis gênée de l'appeler comme ça parce que ça fait un peu hiérarchie. Donc, on va l'appeler mon mari. Je pars avec lui. Et ce truc qu'on emmène toujours avec nous qui prend beaucoup de place, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bébé. Alors, autant vous dire qu'on se traballe un spectacle, plus un enfant, plus mon anxiété. C'est plus une Twingo qu'on a, c'est l'Arche de Noé. Nous arrivons dans notre tournée internationale à Las Vegas, traduction française, conche en ouche. Et je me sentais... Oui, conche en ouche, ça existe. Et je me sentais un peu à l'étroit, alors impossible à dire si c'était dans la bagnole ou dans ma vie. J'étouffe ! Je sens un petit crack au niveau de mon pantalon côté fessier. Je me dis, ça pue la merde. Et effectivement, puisque le babe avait repeint son body, un vrai artiste, des aplats de couleurs profondes, de la matière, un soulage en herbe, qui s'était effectivement soulagé. Et soudain, que réalise-je ? Eh bien que dans l'Arche de Twingo, il y a un lit, un transat, 37 peluches, 18 hochets, 25 petits pots et pas une couche. Voilà. Je fais deux pharmacies, ou plutôt les deux pharmacies de conche en ouche. Avez-vous des couches ? Oui, super, mais j'aurais dû préciser pour bébé. Oui. trois rayons, troisième âge et pas une pampers. Pauvre gosse, du coup, je vais foutre un de mes tampons.
On fait ce qu'on peut,
écoutez, système non. D. Bref, à conche.
Non, vite, passe à autre chose, vite.
À conche en ouche, il n'y avait pas de couche. Et voilà Tipa, que je dis voilà Tipa déjà, Ginette 67 ans sort de ce corps, mais aussi voilà Tipa que les gens me dévisagent. Alors je mesure ma notoriété, tout le monde, et je dis bien tout le monde, me regarde avec cet air de mi-fascination, mi-amusement, si propre aux stars, un regard que vous autres autour de la table devez peu connaître. Et voilà Tipa, que j'en dis voilà Tipa, que je passe devant un miroir et que je m'aperçois que mon jean, qui fut ma fierté ces derniers mois, ce jean pré-grossesse qui s'ennuyait tout seul dans mon dressing, qui chantait la solitude depuis plus de 12 mois, qui avait, tel François Bérou, refait surface et était ressorti des profondeurs de l'oubli. Oui, ce jean que j'arborais fièrement, qui symbolisait l'évaporation de mes kilos de grossesse, vous voyez duquel je parle ? Ouais. Forcément que oui, puisque c'était le seul jean que je mettais depuis maintenant 6 mois. Eh bien, ce jean avait tel mes nerfs à ce moment-là, craqué, mais complètement. C'était pas un trou, c'était la bouche des enfers, la dette publique, Gainsbourg version XXL, un gros trou, un très très gros trou. C'était donc pour cela que les gens ne me regardaient pas dans les yeux. En fait, leur regard disait, la pauvre à poil dans la rue, dis donc, elle a pas de cul. Enfin si, du coup, excellent. Alors, dans la Twingo de Noé, il y avait un lit, un transat, 37 peluches, 18 hochets, 25 petits pots, 3 t-shirts, 2 pulls, des chips, un parapluie, un gilet jaune, 25 chargeurs de téléphone, mais pas de couche ni de fucking fut. Mais pourquoi on a tout sauf ce qu'il faut ? Alors, où trouver un futal lorsqu'on a perdu notre dignité ? Ouais. Sujet de bac philo. L'Intermarché de conche en ouche. Mais où suis-je ? Dans un supermarché ou dans un marché super ? Peut-être qu'on m'a toujours menti que le ridicule en fait tue et que je suis actuellement au paradis. L'Inter de conche est plus grand que la ville de conche en elle-même. Et que vois-je ? Des couches pour bébé à perte de vue. Et oh, des vêtements. Oui, ces vêtements à la signature olfactive si caractéristique aux hypermarchés, ce savant mélange de senteurs, fleurs de chiottes, boulangerie et poissonnerie. Eh bien, figurez-vous qu'à Intermarché City, il y avait un rayon que je ne connaissais pas, le rayon seconde main. Vêtements de seconde main, je précise, bien qu'un supermarché de seconde main tout entier, ça pourrait être génial. Tu pourrais acheter les trucs que tout le monde laisse tout le temps, tu sais, les crémas à la cerise, les croûtes de pizza, les Dove dans les célébrations. Donc, à la vue de ce rayon, la bobo que je suis se dit, mais génial ! Et la snob se dit, des fringues d'hypermarché et en plus d'occasion, mais c'est moi qu'on devrait payer pour les porter. Et enfin, la fauchée se dit, 10 balles le fut, je vais plutôt prendre le pull à 5 balles. Mais sous couvert de c'est génial un rayon friperie, ça se rachète une conscience et pour la racheter, c'est des nouveaux moyens pour que nous, on achète. Ce serait typo du greenwashing, ce truc-là ? Si, Ginette. Et c'est l'art de nous positionner le regard sur une initiative séduisante pour qu'on en oublie le reste. C'est-à-dire les agriculteurs et producteurs qu'on pressionne pour qu'ils bradent leurs produits, le financement de l'élevage de masse, le gâchis alimentaire, les suppressions des postes au profit du profit, les haut-parleurs mal réglés. Sylvie est demandée en caisse centrale, Sylvie, merci. Et j'en passe. Bref, on attire l'œil sur ceux qui brillent pour cacher ceux qu'on ne veut surtout pas montrer. Un peu comme ce sweat qui ne m'a pas coûté la peau des fesses et me les a bien cachés.
Bien, merci. Laura Dommange.
Et Laura Dommange, tu es sur scène le 13 février, tu seras à Gesch-Polsheim, le 18 février à Paris au Théâtre de l'Œuvre et le 26 février, tu seras dans une ville magnifique où il y a des couches, où il y a des pantalons, des premières de deuxième main, c'est Poitiers.
Oui.
God save the couche. Là voici la musique de Martin. Elle est bonne camarade, ça. Elle est très très bonne camarade, ça. Il est comment en réalisateur, Jean-Paul Rouve?
Il est super. Il est mal... Franchement,
vous pouvez, vous pouvez dire la vérité, hein, ça.
Non, mais c'est la vérité. Déjà, il accueillait toutes nos propositions et voilà, et bêtises. Et surtout, voilà, il n'y a pas de passage entre l'acteur réalisateur, si ce n'est qu'il avait une doublure avec sa perruque.
C'est ce que j'allais dire. Comment, voilà, comment faire vous étiez dans le personnage de Jeff Tuche.
Habillé, oui, en Jeff Tuche. Ouais.
Derrière la caméra.
Bah ouais. Tout ce qui est un peu... Mais bon,
on s'habitue.
C'est la vie. Oui, on s'habitue. Ouais. Et en effet, j'avais une doublure. Pour mettre en place le plan, parce que avec la perruque, c'est vrai, avec la masse de cheveux, faut que visuellement tu pas cacher des trucs, donc t'es obligé d'avoir quelqu'un en doublure, c'est marrant.
C'est moussu.
C'est moussu.
C'est très moussu. Ouais.
Pour enlever toute suspicion de prise de pouvoir de votre part à la réalisation, c'est Olivier Barou qui n'a pas voulu faire le 5 ou c'est vous qui avez voulu absolument le faire?
Non, c'est ça, c'est en fait, comme vous savez, quand vous êtes acteur, ça vous prend 2 mois, un film. Quand vous êtes réal, ça vous prend plus d'1 an. C'est beaucoup de travail. Et Olivier, il en a enchaîné 4. Donc il était un peu, il voulait passer à autre chose. Et au moment où on écrivait, lui, il était en écriture de Pamela Rose, la série.
D'accord.
Donc voilà. Et donc Pathé, c'est les producteurs. Pathé m'a demandé si je voulais le réaliser. Ça s'est fait comme ça, en fait, tout simplement.
Et vous avez aimé?
Ah, j'ai adoré ça parce que j'avais déjà fait des films en tant que réal, mais je fais plus des comédies dramatiques. Enfin, vous avez déjà vu les films que je fais. Et là, j'avais peur. Franchement, je me dis attention, il faut pas que je l'amène à moi justement le film. Faut que je reste dans l'ADN des Tuches. Est-ce que je suis capable de faire ça?
Ma question. Non, la réponse est oui. On parle donc de l'Angleterre, de la monarchie qui est un peu chahutée dans God Save the Tuche. Demain au cinéma avec Thibaut Arroy, notre maître de conférence en civilisation britannique, qui sera notre invité. Mais la musique, justement, celle que vous écoutez, que vous aimez, Sarah Stern, on va commencer avec Al Green dans les années 80.
Ah oui.
La version originale, puisque Tina Turner l'a chantée, évidemment, cette chanson, ensuite. Et dans ces années 80, elle est toute petite.
Bah oui. Vous êtes biberonnée au grand classique. Vous êtes biberonnée au grand classique, Sarah. Vos parents sont passionnés de cinéma. Qu'est-ce que vous voyez comme souvenir de films?
C'est vrai, je peux dire que j'ai vu Vertigo vers 5 ans.
Oh, wow. Mais non.
Et j'ai vu La Féline de Turner. Ça, faut le faire. Hein.
Ouais.
Pareil, vers 7-8 ans.
Mais sur un malentendu ou...
Ouais, je sais pas.
Vous faites un procès à vos parents.
Je me dis qu'ils étaient hyper laxistes, en fait. Mais c'est vrai que j'ai vu des films, des grands classiques, très tôt.
Ouais.
Et aussi Chantons sous la pluie, aussi, enfin, voilà.
Pas que des cauchemars, vous voulez dire?
Non, pas que des, voilà, pas que des trucs qui m'ont filé des phobies ensuite.
Au point déjà de se dire, il y a un métier derrière tout ça, il y a des interprètes et il y a un monde possible.
Ouais. C'est venu très tôt. Je pense que j'ai saoulé toute ma famille dès l'âge de 4-5 ans avec des spectacles et autres. Ouais. Voilà, ouais.
Dans ces années 80, toujours, Jean-Paul Roux, vous écoutiez.
Mais j'espère comme un homme à la mer.
À quel degré de vanne?
Non, de rien, Pierre Bachelet. Moi, j'adore Pierre Bachelet parce que Pierre Bachelet, il a fait la musique de Coup de tête.
Ouais.
Voilà.
Et d'Emmanuel aussi.
Oui, bien sûr d'Emmanuel, mais moi c'est Coup de tête.
C'était Coup de tête, votre.
Voilà.
Ouais. C'est vrai que vous n'aimez pas beaucoup le football, donc.
Ah, mais j'adore ce film. C'est un grand film de qui a pas marché à l'époque d'ailleurs. Donc voilà, grande rêve pour moi, Pierre Bachelet.
Ok. Et que se passe-t-il, Leïla, pour Jean-Paul?
Vous êtes au théâtre, vous prenez des cours de théâtre, Jean-Paul, à cette époque-là, au Centre Dramatique du Nord-Pas-de-Calais.
Oui.
Exact. Ce sont vos premiers.
Oui,
pas.
C'est ça. Ouais. Exactement. J'avais cette chance-là. Il y avait donc le Centre Dramatique du Nord-Pas-de-Calais qui était localisé à Béthune à l'époque. Oui. Il y avait des antennes dans plusieurs villes. Et le Centre Dramatique National, c'était à l'époque tenu par Jean-Louis Martin Barbaz, qui était un très grand metteur en scène, professeur de théâtre, qui avait travaillé avec Vitesse, donc, au conservatoire, tout. Et comme ça, par chance, grâce au service public, quoi, il y avait une antenne à Dunkerque et on avait des cours avec des grands professeurs.
C'est super.
Ouais, c'était génial.
Qu'est-ce que vous avez retenu de ces cours?
Ben, c'était mon première approche du théâtre. du théâtre classique. C'était quoi?
Il y a une phrase qui résonne encore aujourd'hui dans votre mémoire.
C'est plus après, alors je vais dire, c'est plus quand j'arrive au cours Florent avec Isabelle. Oui. Très là, bien, oui, ça c'est une autre. C'est un choc.
Ouais, ouais. C'est là où vous rencontrez Isabelle, oui. Les futurs Robin des Bois.
C'est ça, oui.
Vous bossez en parallèle pour payer votre appartement.
Exactement. Je travaille au CNL, au Centre National du Livre.
Oui.
Et c'est quoi?
Et je faisais, alors d'abord j'étais gardien, je rentrais, je sortais les poubelles, machin, tout ça. Et ils ont vu que j'étais pas. Il y a une dame qui est partie complètement con.
Ouais, je...
Non, mais je... Et il y a une dame qui est partie en congé maternité et je l'ai remplacée. Je m'occupais de donner des subventions aux bibliothèques en France. Ouais.
Super.
Ouais, c'était super. Ouais.
On fait un saut. En 2002, Sarah Stern, vous écoutiez Jill Lowe. Ah bah, de style, de génération, ouais.
Oui.
Et puis de look en même temps.
De salle, de ambiance.
C'est la danse autour de Jill Lowe,
c'est tout. Jill Lowe, franchement, quand j'étais ado, moi, c'était, j'étais une fan absolue. Absolue.
Genre, vous avez des posters dans la chambre?
Peut-être, je sais pas, les posters, non, mais je regardais en boucle ses clips, ses chorés, tout.
Danseuse dingue, absolument. Et on vous retrouve à cette époque-là dans La Guerre à Paris. C'est votre première apparition, je crois, devant une caméra.
Oui, alors c'est vraiment minuscule, mais c'est ma marraine Yolande Zoberman qui a réalisé ce film. Et c'est vraiment une panouille, hein. Vraiment, voilà.
C'était au cinéma ou c'était pour la télé?
C'était au cinéma.
Avec Élodie Bouchèze et Jérémy Régnier dans les rôles principaux.
Ouais, je suis pas sûre qu'il reste grand-chose de ma partition dans le film.
Non, mais en tout cas, c'est intéressant de dire un mot de Yolande Zoberman pour ceux qui la connaissent pas. C'est quand même une grande documentariste et cinéaste.
Immense. Ouais. Elle a réalisé M, qui a été extrêmement primée. Et La Belle de Gaza.
La Belle de Gaza récemment, cette année, ouais. Voilà. Ou alors Will You Have Sex with an Arab, c'était un de ses documentaires. Ouais. Elle fait des trilogies souvent, elle s'intéresse aux communautés. Là, c'était. On était en Israël ou à frontière gazaoui, en tout cas, mais c'est une grande cinéaste.
Sur les trans, grande cinéaste. Ouais.
2002, Jean-Paul Roux, vous écoutiez.
Mais alors, ça. Eh oui, moi j'aime bien Calo, je trouve que c'est un mélodiste incroyable. Et dans ce clip, il y avait, je me souviens, mon amie Mélanie Douté, que j'aime beaucoup. Voilà.
Dans l'ascenseur.
Dans l'ascenseur. Et je trouve que c'est vraiment un grand mélodiste, ce garçon.
Et on est dans une période où Jean-Paul Rouve, Leïla, est remarqué et remarquable dans Monsieur Batignolle.
Dans Monsieur Batignolle, réalisé par Gérard Jugnot.
Ouais.
Vous racontez comment Dominique Farrugia est encore déjà un peu lié à cette histoire.
Oui, bien sûr. Moi, j'étais en vacances avec Dominique, puisqu'on était copains. C'est l'époque des Robin des Bois. Et on déjeune avec Gérard. Voilà. Et puis on parle de la Seconde Guerre mondiale, parce que ça m'intéresse.
Ouais.
Mais c'est tout.
Comme vous faites souvent dans les déjeuners entre amis, quoi.
C'est vrai, c'est une période qui me passionne. Et voilà. Et donc, il me parle de ça. Et puis, je sais pas, 15 jours après, je reçois un coup de fil de Gérard qui me dit, écoute, je vais faire un film qui s'appelle Monsieur Batignolle. Je voudrais te proposer un rôle dedans. Ouais. Et moi, je lui réponds, oui, avec plaisir. Dites-moi quand sont les essais. Et il me dit non, mais il n'y a pas d'essai, je t'envoie le scénario et si tu veux, tu as le rôle. C'était la première fois qu'on m'envoyait un scénario sans que je passe d'essai.
Et la première fois, ça vous vaut un César.
Et pour un décalage en plus, pour un personnage.
Pour un personnage, exactement, pas un personnage de comédie.
Première fois et ça vous vaut le César du meilleur espoir masculin.
Ouais, exactement. Ouais.
C'est pas mal.
Classe.
2005-2006, Sarah Stern, vous écoutiez.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui s'y...
Pourquoi cette chanson colle à cette période précise?
En fait, j'étais à Londres. Alors voilà, moi j'ai passé 3 ans, j'ai fait la Royal Academy d'Art Dramatique là-bas. La RADA.
Et, sauf que vous êtes partie, vous ne parliez pas anglais?
Non. J'ai bluffé à l'audition.
Tu parlais pas?
Non, je parlais pas. Comme dans les bilingues. Ouais, voilà.
T'as fait une audition en anglais sans parler?
Oui, j'avais travaillé les textes. Un texte classique, un texte moderne.
Wow.
J'avais été très mystérieuse aux entretiens, très énigmatique.
Oui, yes,
et en fait, après, j'ai galéré. Et j'ai regardé en boucle la BBC. Enfin bon, voilà. Ouais, ouais. Et j'écoutais certainement à l'époque de la chanson française parce que j'étais trop malheureuse d'être loin.
Oh.
Dans cette même période, 2005-2006, Jean-Paul Roux, vous écoutiez. Robbie Williams, je ne sais pas si vous avez vu le film Better
Non,
je
n'ai pas vu, c'est bien. Incroyable. Ouais, non, maintenant avec la promo.
Non, j'imagine, mais dès que vous aurez le temps,
bah oui.
Regardez-le parce que
c'est une bonne idée de faire ça.
On ne le voit pas.
Voilà.
On ne voit qu'un singe, qu'un animal, et en fait, personne ne dit voir un singe. C'est-à-dire que et Robbie Williams l'explique en disant on ne se voit pas comme on est, on ne se voit pas comment les autres nous voient. Donc autant mettre quelque chose qui ne correspond à aucune image. Et c'est une réussite extrêmement émouvante. Puis la réalisation est totalement impressionnante. Il est, à ce moment-là, Leïla, dans sa vie.
Et au cinéma, je préfère qu'on reste amis. Et aussi dans Nos jours heureux, toujours de Toledano et Nakash. Oui. Vous vous retrouvez comme ça sur ce tournage dans un château colo, pas loin de... en Charente, avec plein de mômes.
Bah oui, on fait ça de manière... légère, on s'amuse beaucoup avec les enfants et Omar. C'est vraiment super. Pendant les vacances, on voit le film, on s'amuse, mais je vois le film et je dis ouais, c'est chouette et tout. Voilà.
Vous rendez pas compte de l'impact qu'il va avoir.
Et on présente le film au festival de l'Alpe d'Huez, je me souviens. Et là, on se rend compte dans la salle qu'il se passe quelque chose.
Ouais.
Et le film devient, il a bien marché à l'époque. Pas non plus fou, mais et après il devient culte quoi. C'est il repasse à la. Moi je croise que des mômes qui vont en colo
bien sûr.
Qui me disent on le regarde à chaque fois avant de partir en colo, c'est magnifique.
2011, Sarah Stern, vous écoutiez. C'est la BO des Tuches, non ?
En fait, c'est la chanson de la Corée de Stéphanie dans Les Tuches 1.
Mmh. Ouais.
C'est d'ailleurs pas la chanson d'origine, de mémoire, mais c'est finalement celle qui a été...
C'est-à-dire qu'il y avait une autre musique sur le plateau pour faire la Corée, et ensuite...
Donc, probablement les droits étaient trop chers,
d'accord.
Et donc ça a fini par être cette chanson.
Ça reste un bon souvenir ?
Très bon souvenir. J'étais pétrifiée. C'était un de mes premiers tournages. J'étais sur une estrade devant, je sais pas, 200 figurants et il fallait que je fasse une choré. Et c'était ma prof de danse de quand j'étais petite qui m'avait coachée.
Génial.
Qui était là, donc ça c'était assez mignon. Mais j'étais morte de trouille.
Le début d'une belle histoire.
Olivier Barou, voilà, qui vous propose ce rôle de Stéphanie.
Oui, que j'embrasse. Ouais.
Il vous décrit comment ce personnage de Stéphanie avant de vous envoyer le...
En fait, au départ, il m'a appelé en me disant voilà, je voudrais te parler d'un projet. Il y a ce personnage. Elle est un peu fascinée par Paris Hilton. À l'époque, elle n'est pas encore toutes les influenceuses.
Oui, oui.
Enfin voilà. Maintenant, on pourrait la rapprocher un peu de Kim Kardashian, Stéphanie. Mais à l'époque, il n'y avait pas voilà. Et donc Paris Hilton, c'était la ref. Et il me demande de lui faire des photos. Et donc, j'appelle une copine à qui j'emprunte son Jack Russell. Je me fais tout un look pas possible. j'envoie des photos, voilà. Et ensuite, je passe des essais. Et quelques temps plus tard, Olivier m'a appelé pour me dire que c'était...
Elle reste midinette en étant une maman, quand même. C'est-à-dire qu'elle est partagée entre...
Midinette à vie, je crois.
On est d'accord. Ouais. Jean-Paul Rouve, au moment de Tuche, écoutez... J'aime bien le « Pourquoi tu gâches ta vie ?» calé. Voici la question là-dessus.
Ouais.
Alors que c'est une belle histoire, c'est Tuche. Elle est née comment d'ailleurs, cette histoire ?
De quoi ?
Qui a eu l'idée des Tuches ? Ouais,
c'est
la première.
Philippe Michelin.
Okay.
C'est lui qui a écrit le premier. Donc Philippe Michelin, à l'époque, il est patron, je crois, même des Guignols. Patron des Guignols. Et il a une dérogation pour pouvoir écrire à quelque chose. Parce qu'à l'époque, vous le savez peut-être, quand tu travaillais aux Guignols, t'étais bien payé, t'étais tout bien, mais t'avais pas le droit de faire quelque chose à côté. Il fallait que tu sois 100% dans ton boulot. Et il a eu une dérogation, il a écrit Les Tuches. Et à l'époque, c'est...
Inspiré d'un fait divers, je crois.
Oui, c'est ça, d'une famille qui avait gagné au loto à Grenoble, qui était partie s'installer du côté de Grenoble. Et qu'est-ce qui se passe ? Oui. Et c'est Chantal Lobby au départ qui doit faire le film.
Okay.
On l'embrasse fort, Chantal.
Exactement. Ouais. C'est Chantal qui doit le faire. Et à l'époque, c'était produit, même si je vous raconte tout, c'était produit par Arthur, que vous connaissez, Arthur, qui avait sa boîte de prod de Cinoche. Et puis Chantal finalement ne le fait pas. La vie fait que c'est récupéré par Pathé. Et c'est Olivier qui se retrouve dessus.
Et bien voilà que naît le personnage de Jeff Tuche.
Oui.
Vous êtes inspiré de qui ? Vous avez cherché où ce personnage ?
Ben, je suis inspiré, première étape, des Robin des Bois, d'un personnage que je faisais dans Radio Barefoot, qui s'appelait Marcel.
Oui.
Et ce personnage donc, est inspiré de mon enfance, est inspiré de Dunkerque, des gens que je connaissais à Dunkerque. Schumacher, qui étaient un peu comme ça, des personnages hauts en couleur, même si bien sûr je l'exagère, mais qui ont une poésie quand même. Ah, mais complètement, ouais. Moi c'est ce que j'aime. C'est cette philosophie de vie,
Comment la définir? Parce que il y a des moments où il est très beauf, entre guillemets, il est bière, foot, et il donne des ordres allongé sur sa chaise longue, il donne des ordres à sa femme de faire le linge.
Et de l'autre côté, il y a des moments de poésie, mais c'est un peu, on est tous comme ça en fait, on n'est pas fait que d'un bois. Donc moi, il y a quelque chose, des gens qui sont comme ça, on a l'impression que c'est basique, et en fait c'est beaucoup plus complexe, tout être humain est plus complexe. Donc moi j'aime bien montrer les deux phases, et j'aime le montrer aussi quelquefois où il est con. Non mais c'est important, et c'est important parce qu'on l'est tous à des moments, et ce qui est important, c'est d'être con, c'est pas grave, ce qui est important, c'est d'évoluer. Donc son rapport,
non, ce qui peut être dangereux, c'est le mal qu'on fait à ceux qui
bien
sont
sûr,
autour
non,
de soi
à cause de ça. Tu as des idées arrêtées, par exemple, voilà, des idées arrêtées. Bah, les idées arrêtées,
le mal qu'on fait aux cons qui sont autour de nous.
Ouais. Non, mais voilà, mais c'est les idées arrêtées pour moi.
Non, mais quand je dis le mal, c'est-à-dire que parce qu'il a un derby de foot, il prive Cathy de son rêve.
Égoïste.
Donc c'est là où la connerie peut faire du mal.
Mais il s'en rend compte. Il s'en rend compte.
Et à côté de ça, quand il la rencontre pour la première fois, il lui dit tout de suite qu'il va faire d'elle une princesse. Donc il y a quelque chose d'éminemment poétique et tendre.
Et cette voix. C'est-à-dire que quoi que dise Jeff Tuch, c'est...
Alors ça, c'est un outil de comédie formidable. Ouais, c'est vrai.
Vous pouvez dire n'importe quoi.
Alors c'est ça qui est marrant.
Il appartient à Jeff Tuch.
En plus, je vais dire presque ce qui m'intéresse le plus, d'ailleurs, dans ce film, il n'y a pas d'enjeu, on va dire, scénaristique très hors norme, hors sol. Parce que moi, ce qui m'intéresse presque plus dans les Tuch, c'est le quotidien. C'est eux qui prennent un petit déj, c'est eux qui vivent. J'ai envie de les regarder comme un doc.
Qui prennent le petit déjeuner dans la cuisine et pas.
Et pas dans la salle à manger. Voilà. Bah ouais, le petit déjeuner, c'est dans la cuisine.
Bah évidemment.
Ça me plaît.
Je suis pas sûr avec le menu, du petit déj. Il y a des impros, quand même.
Un peu, ouais.
Est-ce que Cathy Tuch, lorsqu'elle dit je me fais pouffer toute seule.
Non, c'est écrit.
Ça, c'est écrit.
Ouais.
C'est tellement drôle.
Ça dépend. On va dire, allez.
Elle le joue tellement bien.
Oui, on a l'impression que c'est elle qui le rajoute.
Non, c'est écrit, ouais. Pouf, pouf, tu sais pas qui c'est qui te pouffera. Ouais. Non, mais oui, c'est écrit à 80%, je vais dire. Et puis, en effet, comme tu disais, j'ai laissé une place, comme Olivier faisait d'ailleurs, une place à l'impro. Et puis après, au montage, tu gardes pas. Mais ce qui est étonnant, ce que j'ai pu remarquer sur tous les Tuch, avec le temps, c'est que ce que les gens, ce qu'ils retiennent, c'est souvent des phrases d'impro.
Reparlons et continuons, restons même en Angleterre. God Save the Tuch, c'est demain au cinéma. Thibaut Arroy nous a rejoint. Bonjour Thibaut, maître de conférence en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. La royauté anglaise se porte bien ?
Alors, je dirais que la royauté britannique, c'est loin d'être la préoccupation principale
de
la population des Anglais.
Ah bon
en fait, on est dans une monarchie parlementaire, donc l'institution principale, l'institution la plus importante, c'est le Parlement, et c'est ça qui reste au cœur.
Ils sont des millions à suivre les couronnements, les fêtes, les mariages, ils ont tous des mugs. Je veux dire,
je ne sais pas.
Ah si, beaucoup.
Et en tout cas, beaucoup à l'étranger, ça c'est surprenant, et on est beaucoup à le suivre depuis l'extérieur, et pas forcément au Royaume-Uni. En tout cas, c'est loin d'être le centre de la vie politique au Royaume-Uni.
Le Brexit a changé quelque chose en Angleterre dans les mentalités, dans le regard vis-à-vis de cette vie insulaire et du reste du monde ?
Alors en effet, le Brexit, ça a été quand même un tournant dans la vie du Royaume-Uni. Ça a été un choc pour les institutions, ça a été aussi un choc dans la vie politique. On a eu une formidable instabilité pendant les années qui ont suivi le Brexit, et aujourd'hui on se pose évidemment la question de l'avenir du Royaume-Uni vis-à-vis de ses partenaires européens, mais aussi de l'avenir du Royaume-Uni dans le monde. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'énormes divisions au sein de la société britannique, et ça c'est des divisions qui continuent aujourd'hui, même si on parle plus trop du Brexit au Royaume-Uni, finalement les divisions continuent à exister.
Il y a le regard, est-ce que Charles est vraiment considéré comme un roi, ou il continue d'être l'héritier de la reine d'Angleterre tellement elle a marqué de son empreinte, son passage sur
le trône. C'est sûr que la reine Elisabeth II, c'est la reine de toute la seconde moitié du XXe siècle, du début du XXIe siècle, c'est la reine des Trente Glorieuses, une période où le Royaume-Uni, comme d'autres pays occidentaux, avait confiance dans l'avenir. revenir, un moment de stabilité dans la vie du pays. Et aujourd'hui, le pays n'est plus dans cette ère de grande stabilité. Et donc le roi n'est pas associé à ce souvenir de cette longue période où le Royaume-Uni a été transformé. Au contraire, le nouveau règne est plutôt celui d'une Grande-Bretagne qui hésite.
Avez-vous quelques minutes pour rester avec nous et parler après les infos de midi? C'est gentil. Et après ces infos, il y aura également Mélodie Fontaine. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Des nouveaux tips pour cartonner sur les réseaux sociaux.
Tips, c'est pas anglais ça? Ça sera après les infos. La bande originale avec Leïla Kadrouzadi, avec Elisabeth Moitié, Laura Domange, Mélodie Fontaine. Et nos invités, Sarah Stern et Jean-Paul Roux.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Magui.
Avec Lernado, avec Pierre Lotin, Théo Fernandez, Philippe Méchelin, Julien Hervé, pardon, et Nessim Chikaoui signe avec vous, Jean-Paul, ce scénar de God Save the Tuche. J'ai oublié Isabelle Nanty, j'aurais jamais dû faire ça. Pourquoi l'Angleterre? Comment est venue l'idée d'Angleterre? Parce que chaque fois, il faut trouver une nouvelle destination pour les Tuches.
C'est pas la destination, c'est le monde dans lequel ils vont. Ce qui nous intéressait... En fait, les Tuches, c'est le poisson hors de l'eau. Donc, ils ont leur monde et ils vont dans un monde qui est avec complètement différent.
Avec le leur.
Avec des codes.
Ouais.
Avec des codes qui sont souvent puissants. Bling Bling, Monaco, les États-Unis, la présidence. Et là, on s'est dit, tiens, la noblesse, c'est intéressant. Les codes de la noblesse qui sont très forts. Et on s'est dit, quelle est la monarchie qu'on connaît mieux en France? C'est l'Angleterre. Et en plus, donc, ça nous a permis d'élargir justement à l'Angleterre, qui est une culture intéressante.
Alors justement, Thibaut Arroy a eu la gentillesse de rester. Cette monarchie est toujours incontestée en Angleterre. Ça fonctionne bien, ils sont contents comme ça, ou ça pourrait un jour devenir une république?
Alors, bon, la monarchie est beaucoup moins populaire aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Dans les années 80, il y avait 85% de la population qui disait que la monarchie était au moins assez importante. Aujourd'hui, c'est à peine la moitié de la population. Après, il y a des hauts débats selon les périodes. Il y a eu un petit regain de la popularité de la monarchie au moment du décès de la reine Elisabeth. Peut-être parce que voilà, c'était une figure qui avait marqué et qu'il y avait un certain regret pour cette période. Mais aujourd'hui, la monarchie, en tout cas la famille royale, est beaucoup moins populaire. De là à dire que...
À cause de télé-réalité, à cause d'émissions de recettes de cuisine qui ne fonctionnent pas.
Disons qu'il y a aussi un certain nombre de scandales qui n'arrangent pas leur image. Il y a évidemment des scandales de mœurs, mais il y a aussi tout un tas de débats sur le coût de la monarchie, sur ce qu'elle représente et ce qu'elle est vraiment utile pour le pays. Alors de là à dire que le pays est prêt à devenir une république, pas tout à fait encore. Il n'y a qu'un quart de la population qui serait prêt à changer de régime. Et encore, ça c'est dans les sondages. Et il n'y a aucun parti pour défendre cette idée. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, même s'il y a des réformes de la monarchie.
Au niveau de la culture, il y a évidemment le thé, la bière, les pubs, les darts et autres foot. Mais il y a surtout l'humour anglais. Comment vous le voyez, vous le définissez, cet humour anglais, vous qui êtes maître de conférence et qui étudiez l'Angleterre? Est-ce que l'humour fait partie d'un volet des études?
Alors on peut faire des cours, on peut tout à fait faire un cours sur l'humour anglais, hein, mais disons que ça reste assez difficile à définir, même s'il y a un certain nombre de stéréotypes ou de choses qui reviennent souvent.
Il y a beaucoup d'autodérision dans l'humour anglais. Comment Jean-Paul Rouve?
L'humour anglais, c'est l'humour anglais. Hein. C'est compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Déjà,
c'est absurde.
Oui, il y a beaucoup d'absurdes, c'est vrai. Et puis c'est un humour. Vraiment, on pige ou on pige pas, il n'y a pas de demi-mesure. Ou ça fait hurler de rire, ou on est complètement à côté. Il est vraiment particulier, moi je l'adore.
Merci Thibaut Arroy d'être resté avec nous. La réussite avec ce God Save the Tuche, c'est Kill the Kings, évidemment, mais avec toutes les références, les frites, ils sont toujours là. Ça, il fallait absolument garder les frites jusqu'au bout. Et Pierre Lotin nous l'avait redit ici à ce micro, était extrêmement fier de continuer de faire partie de la bande, comme vous, Sarah. C'est-à-dire que c'est inimaginable, comme Isabelle Nanty, comme les autres, de ne plus en être. 14 ans de Tuche?
Ouais. Wow. C'est fou quand même. Le petit Théo, il avait 10 ans, 9 ans quand il a tourné son premier film. C'est fou, c'est vraiment un petit garçon.
Et puis il y a des messages qui passent aussi, justement, puisqu'on parle de Donald, surnommé Coin-Coin, qui ne supporte pas qu'on l'appelle Coin-Coin. Ça dépend qui. Ça qui est mignon.
Mais parce qu'on est faible face à une jolie fille, on peut devenir très très faible.
Oui.
Et on est sur tous ses idéaux.
Et il veut être empreinte carbone zéro.
Oui, sauf quand il rencontre une fille, quoi.
Donc voilà. Et là, d'un seul coup, tout bascule.
Les Tuches, c'est demain au cinéma, et Mélodie Fontaine, c'est tout de suite à la radio.
Alors, est-ce que je vous avais raconté tantôt mon expérience chaotique sur les réseaux sociaux? Comme quoi qu'il fallait que je m'y mette à fond, oui. Mais que je peinais. Bon, bah, je peine. Hein. Je dois mal passer à la caméra, je sais pas. Heureusement que je suis pas comédienne, mais bon. Je suis bien obligée de persévérer parce que c'est devenu un levier indispensable en termes de visibilité. Ça réclame une vraie stratégie de contenu pour les artistes. Mais pour qui je me prends, moi, avec mon langage de gogolito d'agence de pub? Et vous me laissez faire, vous gnignez visibilité, gnignez levier, mais j'ai envie de prendre mon couteau suisse rouillé et de me crever la glotte avec mon skate électrique. Pour être clair, si moi pas 100K sur Insta, moi pas jouer devant des gens. Donc pour tourner dans des trucs, c'est soit ça, soit se filmer en train de se tripoter sous la douche et envoyer la vidéo à Morandini. Ah bah ouais. Mais bon, je suis une fille majeure. Et j'ai une baignoire. Et j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Donc bon, qu'est-ce que je disais, moi? Désolée, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Oui, donc le combo Insta, TikTok, c'est indispensable pour vendre le produit bientôt périmé que je suis. Car oui, même si je déteste le jargon techno-bullshit des marketeurs, ben je suis un produit. Et la DLC se rapproche dangereusement. Si j'étais un yaourt, sans doute un vieux Danone blindé de Listeria, goût nougat pistache, et je traînerais dans le bac moins 60 à l'entrée d'Aldi. Donc faut se bouger un peu les miches, ma grande! Alors j'ai trouvé un truc. Pour que ça marche sur les réseaux sociaux, il faudrait que je me filme en situation avec un élément extérieur. Ah là là. Alors j'ai déjà pensé à filmer avec des enfants, c'est marrant parce que en plus j'en connais plein, mais c'est bizarre. Et là, c'est, puis les enfants, c'est déjà obsolète. Il y a trop de pédocriminalité sur les réseaux. Et donc, pourquoi pas les animaux? Le nombre de comptes Insta avec des animaux, mais ça cartonne. Tu te filmes avec ton berger australien, tu tapes le million de vues, les gars. Tu cadres comme un pied, tu le déguises, tu le mets dans des positions étranges. Bon, dit comme ça, ça fait un peu boulard, mais c'est plus élégant, c'est TikTok. Non, non, il y a trop de comptes avec des chiens sur les réseaux sociaux. Il y a plus de chiens que d'humains. L'IA de reconnaissance faciale de Zuckerberg pète un câble. C'est un teckel ou c'est Philippe Catherine, on sait plus. Alors, je me suis dit, je vais choisir un animal plus délire, genre une poule. Wow. Mais tu pas, il y a déjà plein de comptes avec une poule. Elle court avec des bottes, elle danse sur du Ariana Grande. Et j'en ai même vu une faire un salut chelou. Mais on m'a dit que c'était comme ça qu'elles montraient leur joie. Des poulottes, probablement. Alors, je me suis dit, bah un crabe, c'est bien ça, un crabe. Personne n'a choisi ça, ça a peut-être pu un peu la marée, mais je dirais que c'est mon slip. Et ben non, il y en a des crabes, ça existe, des crabes de compagnie. Il s'appelle Bob, avec une laisse et un petit chapeau. Un putain de crustacé. Ça existe déjà, alors quoi? Bah j'ai checké l'autre truc qui cartonne en ce moment. Les personnes âgées. Oh non. Eh oui, parce qu'en fait c'est ça mon fil Insta. C'est Thalassa en fait, c'est un EHPAD. Et les mecs ils se filment avec leurs grands-parents la plupart du temps complètement à l'ouest. Et c'est... Ta gueule, faut que je poste. Ils les mettent en scène, je te jure, comme de très vieilles marionnettes avec des fils qui tiennent plus depuis Belle de Rette, et ils en profitent pour placer du placement de produit. Ça fait eh ben salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Nana, salut ma petite Nana, comment ça va? Oula, c'est quoi l'odeur? Bon, au moins t'es pas constipé, c'est déjà ça ma Nana, mais t'as bonne mine, tu mets de la crème. Tiens d'ailleurs, en parlant de crème, est-ce que tu connais la dernière revigorante de Bioderme? C'est canon, montre bien ta crème ma Nana. Non mais le cynisme est total, et ça passe hein. Et même papy, dis bonjour papy, dis bonjour à ma commu, ta gueule, trop mignon, abonnez-vous. Remarque, c'est sympa, tu me diras au moins ils visitent leurs vieux, comme on dit avec beaucoup d'élégance hein. Le cynisme est total, mais bon, c'est pas en ayant des remords que je vais faire des vues, faut que je trouve un vieux. Daniel Morin, reviens. Je
peux... il est en vacances.
Et Mélodie Fontaine, tu es sur scène au Point Virgule tous les lundis et mardis à 20h. Le 7 mars, tu seras à Bernay et le 15 mars à Besançon.
Tout à fait.
Et les Tuches ont bien compris la force aussi de Carnado et du personnage de Carnado dans
oui, c'est vrai.
Et de la rencontre avec Dominique Faux. C'est-à-dire les deux grand-mères, l'une anglaise, l'autre française, ont leur langage, mais elles se comprennent.
C'est ça, Lady Ginto, elle s'appelle. Bon, on comprend à quoi elle carbure.
Extrêmement drôle. Génial. Énormément de vannes irracontables, évidemment, il faut le vivre, il faut même le revivre, parce que chacun y prendra ce qu'il a envie de prendre. C'est assez agréable d'ailleurs dans une salle, même s'il y a un petit moment de gêne, d'entendre l'un rire et l'autre attendre un tout petit peu avant de comprendre et de se dire, on n'a pas forcément la même ref au même moment, mais il y a toujours à prendre, et si on l'a pas, c'est pas grave, on a quand même l'histoire
sur tous les âges aussi.
Ouais.
Moi, mes références, c'est ce que fait Pixar, quoi, quand ils font Vice-Versa, quand ils font ça s'adresse à
aux enfants, adultes,
aux parents, à tout, il y a plein de références. Et ça, j'adore. C'est la musique de.
C'est la musique du film. Du film, ouais. Il y a les tenues vestimentaires aussi, les chorégraphies, les valses, les rêves,
Elles se deviennent.
Ouais, c'est lorsqu'ils avaient. Enfin, Cathy Tuche se retrouve à.
Comme si elle était dans un film de Sissi Impératrice.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'elle est belle sur ce plan. Elle est belle sur ce plan. Elle est belle. Très, très belle.
Mais après, elle voit leur gueule de con. Donc, c'est ça. Donc, ça la réveille d'un coup d'un seul. D'autres événements culturels, Leïla.
On cherche un artiste qui a aujourd'hui 72 ans. Mais une maladie le contraint à se déplacer et à s'appuyer sur un déambulateur. Mais il a toujours son appareil en bandoulière. C'est un photographe qui s'est illustré dans le genre de la photographie vernaculaire. C'est un genre photographique dont le sujet est la vie de tous les jours, tout simplement. Il revendique s'intéresser à l'ennui. Ses clichés ont fait le tour du monde. Il est associé à Margaret Thatcher, d'une certaine façon. C'est un Britannique qui est très, très aimé en France. Un documentaire lui est consacré et il sera diffusé sur France 5 le 14 février à 23h si vous n'avez pas de Valentin. Et bien, à 23h, il y a un super doc. Okay. Connaissez-vous ce photographe britannique? Vous le connaissez de nom, nécessairement. Il photographie les Britanniques dans ce qu'il y a de plus banal dans la vie de tous les jours, devant leur maison, rassemblés en famille. Absolument. Oui. Oh, bravo, bravo, Sarah.
Vous pouvez le dire.
Oui, vous pouvez partout. Oui, vous l'aviez depuis le début, en fait. Mais elle est hyper polie, Sarah. Elle attendait. Ou alors elle constatait à quel point personne ne savait.
C'est probablement le seul photographe britannique dont je connais le nom. Donc,
Eh bien, moi aussi. Et ça tombe bien. Donc, ce documentaire, I am Martin Parr, le 14 février à 23h sur France 5, retrace en fait l'histoire de cet artiste qui a joué un rôle considérable dans la vie des Britanniques et dans la façon de documenter aussi la vie des Britanniques au moment où j'étais confrontée à la main de fer de Margaret Thatcher. Je sais, vous avez ri. Je continue à parler.
Britannique, c'est dangereux. Quand même.
Ça fait un britannique. Ok, on est bon, on est parti. On y va tous ensemble. La photographie, Jean-Paul, parlons-en. La photographie, vous adorez, vous avez exposé même.
Non, pas moi, mon père. Oui. Enfin, c'est les photos de mon père.
Oui, les photos de votre père, mais en tout cas, vous avez une passion.
Et puis j'adore ça, j'adore la photo du quotidien. Oui, ça me touche énormément.
Vous pratiquez ces photos-là, vous continuez à prendre des photos ou alors
Non,
faites pas du tout.
Non, c'est pas moi.
Vous n'avez pas pris la suite.
Mais l'instant figé me plaît quelquefois, raconte plus qu'un film. Ça me fascine, oui.
Et le cadre aussi, c'est une contrainte ou pas de tout faire rentrer dans un cadre quand on est réalisateur?
C'est génial. Mais en fait, l'art n'est que par la contrainte. Enfin, je crois. Si t'as une liberté totale de tout, il n'y a plus d'art, en fait.
Je sais plus quoi faire,
Bah non, parce que il faut la contrainte. La forme est très importante. Donc j'adore ça, j'adore. Les artistes, je trouve, souvent ne sont jamais aussi bons que quand on leur impose quelque chose. Et c'est souvent, malheureusement aussi, quand politiquement c'est compliqué, quand t'as une dictature, quand t'as une période très compliquée, c'est là où souvent l'art est le plus extraordinaire.
Quel genre de photos vous exposez chez vous? Vous accrochez au mur? Qu'est-ce qu'on s'autorise à accrocher au mur chez soi? Alors, est-ce qu'il y a des photos d'enfants, je sais pas, de famille? Est-ce qu'on accroche ça sur le frigo plutôt que sur le mur?
Non,
des photos de stars, d'actrices, d'acteurs.
Moi, j'ai des posters de Jean-Paul. Oui. Essentiellement.
Ça, c'est imposé, c'est par contrat.
Et de Gillo.
Voilà, Gillo et Jean-Paul.
Jean-Paul, vous accrochez quoi?
Non, si, bien sûr. Mais j'ai pas de photos, pas beaucoup de photos personnelles. J'en ai qu'une avec mon fils, que j'aime beaucoup, voilà. Et ensuite, j'aime bien...
Pardon ? Une photo avec mon fils que j'aime beaucoup, vous parlez de la photo.
Oui,
parce que mon fils que j'aime bien.
Après, je le connais maintenant. C'est pas un truc... j'ai un peu fait le tour quand je le connais. Quoi. Elle a 17 ans maintenant. Franchement, je ne m'étonne plus beaucoup. Hein.
Déjà
17 ans, tu te rends compte? C'est fou. Hein.
Ouais, il y a quoi d'autre comme photo?
Pardon. J'aime bien les... Oui, c'est ça, les photos de vie... Les photos de personnes, parce que je m'invente leur vie, leur histoire. J'en achète quelquefois dans les brocantes, tu sais, quand quelquefois il y a comme ça des photos de famille qui datent il y a longtemps, des gens qui posent, et tu dis tiens, c'était quoi leur vie, où est-ce qu'ils sont ces gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent, est-ce qu'ils sont encore là, et tout ça. Ça me plaît beaucoup, ça.
Autre question, on est en 1994.
Non,
ça serait faux.
Déjà non,
on gagne
la pauvre. Et c'est tellement triste.
Ouais, je sais.
C'est tellement triste.
T'imagines le choc pour elle. Là.
On est quand même en 1994. Quand les mineurs britanniques rencontrent les Français. Lorsqu'ils finissent de creuser ce tunnel sous la Manche.
J'ai du bol qu'ils soient.
Absolument. Déjà, ils ont été intelligents, on peut les féliciter. Bravo, bravo, messieurs. Qu'offrent les Britanniques aux Français? Ils offrent un cadeau particulier. C'est un.
Des frites.
Un cadeau particulier parce que, qu'est-ce que je peux vous dire de lui?
Historique.
Il aime la marmelade. Il aime les sandwichs à la marmelade. Il est très, très poli. Absolument.
Qui est dans le film.
Ils offrent une peluche de Paddington, absolument, ce petit ours qui a été créé en 58, qui aime en effet les sandwichs à la marmelade, qui est très très poli, qui est un réfugié aussi. C'est l'histoire d'un réfugié, Paddington, qui porte ce chapeau rouge et ses bottes en plastique, qui porte le nom de cette gare londonienne. La reine a même pris le thé avec Paddington. Ouais. C'était
très drôle.
C'était une de ses dernières apparitions télévisées, d'ailleurs.
C'est ça, l'humour anglais aussi.
Ouais, absolument. Et lors de la mort de la reine, il y a eu beaucoup de peluches à l'effigie de Paddington qui ont été déposées devant les résidences royales. C'est vraiment un emblème hyper important chez les Britanniques. Bien entendu, il est chez les Tuches.
Oui, on a fait une petite référence à Paddington.
Forcément, il est chez les Tuches.
Mais Jeff Tuche croise Paddington à un moment.
Voilà, on ne peut pas dire,
pas plus.
On dit rien.
Un endroit précis.
On dit rien. C'est Guillaume Gallienne qui est la voix de Paddington en France. Moi, je l'associe toujours à Guillaume quand je tombe sur un extrait d'un dessin animé, par exemple. Vous avez fait pas mal de voix de dessins animés.
J'en ai... Oh, pas tant que ça. J'ai fait Madagascar.
Madagascar, quand même.
Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait encore?
J'en avais une autre.
C'est la girafe dans Madagascar.
Oui, je fais la girafe d'Allemagne.
En 2005.
Ah, c'est marrant à faire, ça. C'est très marrant. Hein.
Sarah, vous avez déjà fait des voix?
J'ai fait des voix de pub, mais jamais de doublage. J'adorerais. J'adorerais.
De dessin animé, c'est marrant. Non, j'aime
beaucoup. Il y a un dessin animé en particulier? Un personnage d'un dessin animé qui a une sorte de folie.
Non, mais moi, je vois maintenant avec mon fils tous les Pixar et tout ça. Ouais. Ce serait génial de faire
une voix. C'est un merveilleux cadeau. Ouais, ça serait un beau cadeau. C'est un exercice particulier quand même, Jean-Paul, de prêter...
Ouais, c'est un exercice particulier parce que, comme c'est les Américains, ils sont flippés de que leur film soit piraté, donc on te projette que tes scènes, tu ne vois pas tout le film, tu le vois une fois. Après, ils te projettent tes scènes en noir et blanc, avec une def complètement pourrie, avec marqué DreamWorks en gros au milieu.
Pour pas qu'il y ait de piratage.
Et tu dois te débrouiller avec ça. Donc ça peut être compliqué. Ouais.
Avez-vous eu un problème pour que Paddington soit présent dans votre film jour de la sortie de Paddington au Pérou, quand même. Demain, il y a le nouveau Paddington qui sort en même temps.
Justement, ça va sortir là. Ouais. On a fait on s'est associé avec eux, avec Paddington, et on a fait des affiches où on se mélange. On fait Paddington. non, c'est pas une femme.
Génial.
Hein. God Save the Paddington. Et on fait Barbie avait fait avec Oppenheimer. C'était ça. Hein. Et voilà, des crosses. Et donc, plutôt que de dire, on est en concurrent, je sais pas quoi, on sort en même temps.
Plus il y a de monde qui va au cinéma, plus ça sera pour tout le monde. Ouais. À propos de cinéma, vous serez, Sarah Stern, bientôt à l'affiche de Braqueuse malgré elle.
Ah oui, alors
vous me regardez bizarrement.
Plus, non, parce que je sais pas du tout quand c'est supposé sortir. Mais
j'ai pas la date non plus. J'allais vous la demander.
Mais ben non, je peux pas vous aider.
Alice Zavi, Charlotte Gavris, Armel Deutsch.
Oui, un braquage dans un supermarché qui tourne mal.
Un girly braquage.
Un girly braquage.
Ok, très bien. Vous serez également à l'affiche de La Belle et le Boulanger.
Absolument, une série de Hervé Mimon, enfin réalisée par Hervé Mimon.
Qui sera diffusée sur TF1.
Oui.
Est-ce que j'en oublie une autre ou pas?
Non, je crois pas.
Ok, d'accord.
Est-ce que tu étais allé tourner quand on tournait, tu sais, le truc
Nero
qui se passait,
Nero, ouais.
Voilà, c'est ça.
Ah, quand même.
C'est lui, c'est votre agent en fait.
Il se souvient parce que je l'ai tanné pour.
Ah oui, parce qu'il fallait qu'on la libère un jour, des jours pour qu'elle puisse tourner, ce qu'on a réussi à faire.
Mais... C'est une série historique sur 8 épisodes. Quel est votre personnage?
C'est Néron ou c'est Néron?
Néron.
Néron, c'est sur Néron?
Une mère maquerelle.
Ah, non.
Mais voilà. Et surtout, je prépare mon film.
Ah, racontez!
Long métrage. C'est une comédie sur le désir féminin. Voilà, je n'en dirai pas plus. Produite par Manuel Muntz.
Sur le désir féminin ou sur l'orgasme?
Sur le désir féminin.
Mais je pose la question. ça existe, tu sais.
Bien sûr que ça existe.
Je veux pas te choquer.
Ah bon, mais non.
Ah bon, je te jure. Ok, le désir féminin. Donc vous seriez l'auteur, la réalisatrice et l'interprète?
Peut-être une des interprètes. En tout cas, oui, en effet, je le coécris avec une amie qui s'appelle Anna Bitbol et je vais le réaliser.
Très bien. Les Tuches, c'est demain au cinéma, mais Jean-Paul Rouve, c'est aussi sur scène, L'air de rien, avec l'ami Alain Lanty.
Oui.
Vous continuez cette tournée.
Je la commence. J'avais joué à Paris.
À Paris, on en avait parlé ici.
Oui, c'est ça, exactement. Et je pars en tournée à partir de avril.
Le 10 avril, ça commence à Strasbourg. Ouais. Ensuite, il y aura Metz, Joué-les-Tours, Nantes, Montpellier, Mérignac,
j'adore
Toulouse,
quand on dit
Lille,
tous les noms des villes.
Mans, Saint-Grégoire, Le Touquet, Lausanne, Limoges, Biarritz, La Rochelle, classe. Aux Francopholies.
Ouais.
Oh, wow.
Saint-Brieuc, Angers, Courbevoie, Lyon et de retour à la rentrée prochaine à Paris, à l'Olympia. Deux dates à l'Olympia, 13 et 14.
Déjà, on essaie d'en remplir une, hein, on va se calmer. Déjà, non, mais c'est vrai.
Donc, est-ce que les choses ont changé
depuis qu'on l'a vu ? Oui, bien sûr. Enfin, c'est un spectacle où je reprends des textes de chansons, mais je chante pas, moi. Ouais. Je les dis comme des poèmes, si vous voulez. Et Alain m'accompagne, en effet, musicalement. Et oui, parce que je le jouais à 19h quand vous étiez venus. C'était un spectacle d'avant, tu sais, donc 19h, t'es obligé d'arrêter à 20h, parce qu'il y a le spectacle après. Et donc là, comme on a le temps et on se balade, et surtout on me l'a demandé, donc je vais l'allonger, je rajoute d'autres chansons que j'avais dû sacrifier. Et donc je suis très heureux.
À propos de sacrifice, est-ce que dans God Save the Tush, il y a des scènes que vous avez été obligé de couper parce qu'il fallait rentrer dans un format de 1h30
Non, il n'y a pas de format de temps. Il y a juste de rythme. De, à un moment, tu te dis, tiens, c'est un peu long, là, tu coupes.
Le tempo.
Ouais, c'est ça. Tu te dis, eh ben, je vais pas couper grand-chose, en fait.
Est-ce que, sans spoiler, est-ce qu'il y a un clin d'œil à la fin du film sur ce que pourrait être le 6
ouais. Non, c'est juste pour rire. Mais dans le Tuche 2, on l'avait fait, à la fin, il finissait, il était pape. Et il disait, je vous présente ma femme. Bon, bref, et tout le monde s'est dit, ah, vous allez faire un truc sur le Vatican. Mais non, c'est juste, ça nous fait marrer.
Donc, pas de croisière en perspective, ni de vacances au ski, parce qu'il y a aussi une vanne sur le ski. À la fin, je me dis, tiens, les Tuches au ski, ça pourrait être un univers.
Non, c'est pas ça. On sait pas. Si on en fait un, Inch'Allah, on sait pas. On n'a pas encore réfléchi.
Mais l'envie est là.
Oh ben, si le public a envie, nous, on s'amuse bien, nous, en tout cas, à l'écrire, vraiment.
Et à jouer aussi. Ça serait triste de s'arrêter là. Lisa Delmoitier, des excuses à présenter aux Tuches.
Oui, mais déjà, désolé pour Bruno Pecky, notre Denis Deras national aussi. Enfin bref, tous les membres de la bande qui n'ont pas été cités comme étant malades de la gastro.
Oui,
mes infos, elles se cognent à l'heure actuelle. Une belle moussaka. Enfin bref, c'est juste important de dénoncer tous les gens qui se liquéfient. Désolé pour Barbara, qui a bien fait de crever pour éviter d'entendre le Delaf lui rendre hommage avec. T'as pas envie de faire une petite gastro,
C'est méchant.
C'est méchant.
Mais c'est pour ça qu'on l'aime,
Jean-Paul. Désolé pour France Inter, pour le cinéma français, les Oscars, l'Académie française, bref, toutes les institutions qui comptent sur ma plume, mais qui vont devoir se passer de mes services. Ouais. Voilà, c'est décidé, je vais tout plaquer. Il me reste juste à gagner au loto. Donc en attendant, je serai là demain. Mais voilà, il paraît qu'on crée mieux sous la contrainte financière. Donc,
c'est ça. Ouais, demain, nous parlerons cinéma également avec Artus et Antoine Chevrolier qui seront nous invités pour la Pampa. Merci mille fois et bravo Sarah Stern, bravo Jean-Paul Rouault, c'est une réussite. Ces Tuches sont au cinéma demain. God Save the Tuche.